marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Ici Radio Belgique.
Ici Radio Belgique.
Et le témoin de ce vendredi vient de Belgique, Marco Lamensch et Striptease.
J'habite à côté d'une communauté de carmélites. Quand j'étais petit, j'allais chercher les œufs chez elles, c'était juste à côté de la maison. Je me dis, tiens, sujet original, c'est l'occasion d'aller investiguer là où personne ne va. Depuis
quand
longtemps.
Vous avez été trouvé la mère supérieure, vous avez dit, on va faire un numéro de Striptease.
Oui, elle m'a demandé tout de suite comment ça s'écrivait. J'ai dit, mais non, mais Striptease. Et puis elle m'a dit, je te fais confiance parce que petit, tu venais chercher les œufs et puis tu ressembles un peu à Jésus, qu'elle m'a dit. Et donc, on m'a dit, tu peux y aller.
Dans la joyeuse et tumultueuse équipe de Striptease, c'est bien de citer en exergue Benoît Mariage. Parmi les 130 réalisateurs, les preneurs de son, les monteurs qui y ont travaillé, il a fait sensation avec son film sur ses voisines, les Carmélites. Le concept de Striptease a été inventé au milieu des années 1980 par Jean Libon et Marco Lamensch, qui sera notre témoin de ce jour. Concept. C'est un mot qu'aiment bien utiliser les chefs et maîtres des médias quand ils attendent des idées de leurs interlocuteurs. Libon et Lamensch avaient plutôt des intuitions, faire voir des personnes, mieux, des situations. Ne surtout pas les commenter, ne pas y chercher l'exceptionnel, mais ce qui peut se partager. Le public n'était pas découpé en catégories ciblées, comme le veut le marketing télé. L'intelligence, si on table sur elle, se retrouve partout, dans n'importe quelle catégorie sociale. L'esprit de sérieux, en revanche, était banni. Il y a suffisamment de questions graves, inutiles de forcer la note. À Striptease, on préfère couper court. Au mur de la première salle de montage, une affiche vantait les mérites d'un cabaret, des feuillages amateurs. Vendu, restait à habiller les mots de formules aguichantes du genre « nous informons mais sans couvrir ». C'est pas du cul, c'est pire. Et pour Benoît Mariage, dans son Carmel, le traduire en un mot convenable pour la mère supérieure. Si on n'a pas dit que Striptease était né en Belgique, c'est que la France était évidemment un pays au coefficient tragique trop élevé pour tenter cette aventure. Striptease a eu néanmoins sur l'une de nos chaînes publiques une diffusion dont on renoncera à faire l'histoire, tant elle fut complexe et aléatoire. Et on ne cherchera pas non plus à donner la date exacte de la disparition de Striptease. Son catalogue est toujours ouvert devant nous.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Marco Lamensch, bonjour. Oui, c'est de catalogue bonjour. Qu'il faut parler. Parce que c'est un mot d'éditeur, ça, catalogue.
Oui, c'est un vrai catalogue. Environ 850 films, ça fait quand même beaucoup. Mais enfin, comme tout éditeur qui se respecte, il a produit du bon et du moins bon.
Alors vous évaluez le meilleur à 200-250 films formidables, c'est déjà un beau corpus.
Je me dis un tiers, oui.
Vous y avez puisé pour produire il y a quelques années un coffret DVD chez Sony Pictures et maintenant un livre aux éditions Chronique. Alors on peut raconter l'intuition de départ, le mot concept vous n'aimez pas, hein ?
Non, pas tellement, non.
Vous aviez un maître qui s'appelait Monsieur Mordant, et vous produisez une image extraordinaire de lui, au lieu, en ouvrant un dossier sur le tunnel sous la Manche, de faire tout un développement, un long chapeau, il mettait son plus beau costume, il mettait une caméra sur la plage de Calais, et il venait de la mer, et il arrivait trempé devant la caméra et le micro, et disait « Je viens de Douvres ». Le langage du cinéma se suffit à lui seul.
Mais c'est-à-dire que il s'occupait de télévision. Il s'est dit, j'ai un langage absolument extraordinaire. Et c'était l'esprit du service public. Il trouvait qu'avec ce langage, il fallait essayer de faire passer des choses éventuellement compliquées, par exemple l'économie. Et alors quand il commence, c'est un plan interminable où on voit la plage au premier plan et la mer au second qui est vide. Il y a juste un micro sur la plage. Et puis de la mer, on voit surgir d'abord la tête et puis l'entièreté du bonhomme dégoulinant et qui arrive et qui dit ici Calais, j'arrive de Douvres. Mais il a fait des tas de choses comme ça. Mais dans la joie, dans l'enthousiasme, il y avait que la personne qui s'occupait des finances à la RTBF qui lui envoyait des notes de service en disant « Mais monsieur Mordant, vous avez dépassé toutes les normes, qu'avez-vous à répondre ?» Il répondait « D'accord. »
Alors, le documentaire, c'est d'abord une économie, en tout cas aujourd'hui. Ça dure combien un tournage d'un film de striptease ?
Nous, on a décidé qu'il fallait se donner le temps. C'est-à-dire que pour un quart d'heure, il y avait au minimum une semaine de tournage et deux semaines de montage. C'était un minimum, c'est-à-dire que si on voyait que pour telle ou telle raison, il y avait un couac et qu'il fallait prolonger, on prolongeait. Alors comme on était dans le service public, que tous les gens étaient payés à la fin du mois, il y en a qui faisaient 10 films par an, d'autres en faisaient 3, mais formidable, donc ça valait la peine. C'est infiniment plus compliqué quand on s'est retrouvé en France dans une petite boîte de production qui doit évidemment essayer de survivre financièrement.
Oui, mais enfin, en Belgique, on calcule aussi. En témoigne un personnage qui était déjà apparu dans Striptease. Elle s'appelle Anne Grumez. Elle est juge d'instruction à Bruxelles et elle est l'héroïne principale d'un film de Jean Libon, votre compère, et d'Yves Inan, ni juge, ni soumise. Écoutez la manière dont elle traite à l'économie le délinquant muet devant elle.
J'ai fait le calcul. En prison, ça coûte 150 euros par jour, donc il faut faire 150 fois 20 fois 365, c'est une fortune. Si vous sortez dans 10 ans, par exemple, et que tout va mal, bah, je vais vous retrouver mort. Pas dramatique, hein. On va vous autopsier, j'ai fait le calcul, il y en avait pour 1000 euros. Et, enfin, vous savez ce que c'est l'autopsie, hein. 1000 euros, donc c'est pas très cher, donc ça va. Par contre, si vous vous mettez à vivre encore après la prison, ça coûte une fortune, évidemment, parce que vous allez être au CPAS, on est d'accord? Parce que quand vous aurez 50 ans et que vous sortirez 15 ans de tôle, bah, vous serez comme une lavette, on est d'accord, hein? Et vous voyez déjà dans quel état vous êtes sorti. Alors trouver une femme, des enfants, vous arrêtez, parce que vous serez même plus capable de faire des enfants. Si vous voyez ce que je veux dire, ça marche pas tout seul comme ça. En fait, ce qu'il y a de moins cher, c'est que vous mouriez tout de suite.
Les bons comptes font les bons documentaristes et font les bons juges. Dans le livre aux éditions Chroniques que vous publiez sur l'histoire de Striptease, j'ai été déçu par une expression que vous utilisez ou qu'utilise Jean Libon, « bon client ». Cette juge serait un bon client ? C'est une expression qui est très utilisée dans les médias.
C'est une expression un peu vulgaire dans les médias, et effectivement. S'il y a un bon client dans Striptease, c'est elle, clairement.
Mais c'est pas ce que vous cherchez, un bon client.
Ça n'est pas ce qu'on cherche. Mais
ce que vous cherchez, c'est des personnages?
C'est des situations, plutôt. Des situations qui nous renseignent sur quelque chose. Mais il n'y a pas de règles. On a fait des films de Striptease où il n'y a quasiment pas une parole. Il y a un film qui s'appelle « Le laboureur et ses enfants ». C'est un vieux laboureur dans la Flandre profonde. Et il a deux fils qui ont 45 et 50 ans, qui se détestent et qui, depuis leur enfance, dorment dans le même lit. Et il n'y a quasiment pas un mot. Il y a le tic-tac de l'horloge.
Parce que les chefs et maîtres qui aiment les concepts aiment aussi les dispositifs. C'est le dispositif qui provoque une réaction. C'est votre cas, là. Comment est disposée la caméra, par exemple?
La caméra est tributaire de ce qui se passe. D'abord, chaque réalisateur fait exactement comme il veut. Il y a très très peu de règles, en fin de compte, dans Striptease. Il y a une règle qui est de ne pas mettre de commentaires, parce que souvent le commentaire en télévision, je sais pas, a priori contre le commentaire, hein. René Queneau dans le chant du Styrène qui commence par « Autant, suspend ton bol, ô matière plastique », etc. Chris Marker a des commentaires absolument superbes. Mais souvent, en télévision, le commentaire a servi à raccorder des séquences qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre.
Ou à rappeler la norme.
Ou à expliquer ce qu'on doit penser.
Mais je reviens à la caméra. Il y a un interdit, là, la caméra sur pied. Alors, une fois, un film avec deux jumeaux. Vous aimez bien les frères.
Oui.
L'un de vous, qui vient inspecter le jeune réalisateur, en train de tourner, c'est vous,
oui.
Voit avec horreur, planté au beau milieu du salon, une caméra sur pied.
Oui, oui, c'était deux frères jumeaux d'une cinquantaine d'années, dont l'un écoutait du Xenakis et du Varèse toute la journée, pendant que l'autre faisait de la peinture abstraite. Et une réalisatrice qui n'avait jamais rien fait avant, Françoise Roman, est venue nous proposer de les filmer. Et je suis allé voir, comme c'était la première fois qu'elle tournait, un peu pour l'aider, un peu inquiet. Et je vois une caméra sur pied. Et je dis, mais tu es folle, si jamais il se passe quelque chose. Et je m'en vais un peu inquiet. Et il faut dire que le film était magnifique. Que la caméra sur pied était parfaitement justifiée, parce qu'il faut dire que les gens ne bougeaient guère et qu'il y avait peu de risques que quelqu'un tout d'un coup prenne les jambes à son cou pour aller dans la pièce d'à côté. Et en fin de compte, c'était parfaitement justifié. Donc il n'y a pas de règle. L'idée quand même est de faire oublier la caméra, mais ça n'est pas très difficile, il suffit de prendre le temps.
Anne Grumez, la magistrate de Bruxelles, sur le site Le Figaro FR.
Jean Libon disait « la caméra chaude et la caméra froide ». Je vous donne un exemple. Si maintenant j'ai la caméra devant moi, je ne peux pas l'ignorer, elle ne bouge pas, elle est fixe, etc. Donc je la vois. Et parce que nous sommes en train de parler et que la caméra est un des sujets de notre conversation. Par contre, si vous êtes chez le notaire, que vous devez partager l'héritage de l'oncle d'Amérique, vous êtes trois. Il y en a un qui reçoit tous les terrains, il y en a un qui reçoit tous les titres, et il y en a un qui reçoit la société. Et le problème, c'est l'ouverture du testament pour savoir qui reçoit les terrains, les titres et la société. Est-ce que vraiment vous croyez que la caméra qui est dans votre dos va vous faire un effet ? Non.
La caméra froide et la caméra chaude, ça a été un sujet de discussion souvent, au point qu'un jour, Jean Libon et moi, on a demandé à Manu Bonmariage, en disant, mais il y a une situation où la caméra sera effroyablement chaude, parce que la situation est terriblement froide, c'est prenons un couple d'honnêtes bourgeois en train de faire la vaisselle. Est-ce que tu parviendrais à nous filmer ça? Et il nous a fait un film de 10 minutes, hein, pas beaucoup plus, avec des honnêtes bourgeois qui font la vaisselle, avec une conversation aussi intéressante que... Il ne faut pas oublier qu'on va chez les Dupont demain soir. Ah, je dois penser à aller chez le pharmacien, etc. Il n'y a pas eu apparemment de baisse d'audience au moment où c'est passé. Mais c'est vrai que quand il y a l'événement, c'est la présence de la caméra. Mais quand un type se fait arrêter par un flic, personne ne fait attention à la caméra, évidemment.
Lebrun, La Marche de l'Histoire.
Le magazine qui vous déshabille.
Sur France Inter.
Vous nous permettez cet emprunt. Emprunt à Striptease, Marco Lamensch publie un gros livre aux éditions Chroniques sur l'histoire, l'odyssée de la série Striptease. Alors vous avez raconté mille fois, mais l'origine de ce générique, qui est fondé largement sur le hasard, comme le choix du titre.
Il est fondé sur le hasard. En fait, on ne voulait pas avoir une musique qui segmente trop notre public. Vous avez du Vivaldi, mais les gens qui détestent du Vivaldi...
Oui, mais on a du Vivaldi assez aménagé.
Oui.
Et vous avez de la musique du Mali, aménagée.
Pas mal aménagée, réaménagée, et pour finir enivré, parce que la fanfare qui devait le jouait trop bien. On a fait boire les gens pendant 1 heure, 2 heures, et puis ça... On a obtenu ce que nous voulions, quelque chose de totalement indéfinissable.
On parlait tout à l'heure de caméra froide et de caméra chaude. Il y a des lieux froids qui peuvent provoquer des conversations chaudes. Nous sommes sur la Costa Brava, dans un cimetière. À Striptease, les cimetières parlent.
Il y a beaucoup de tombes, hein ?
Ah oui, il y en a énormément. Là, voilà la tombe. Là, voilà la tombe. Il ne savait jamais dans quel tracas, dans quel mot tu m'as mis. Et au-dessus du marché, quand on l'a retrouvé, il était complètement nu. Hein. Parce qu'il s'est jeté au-dessus du balcon. Hein. Mais oui, René, tu m'as laissé... Mais je sais bien que je vais pleurer en le disant, là. Tu m'as laissé dans une sale situation. Hein. Vraiment dans une sale situation. Parce que tout ce que j'en ai eu, tous les maux de tête que j'ai eu, tout m'est retombé sur le dos. Parce qu'au-dessus du marché, ils buvaient. Tous les jours matin, ils se levaient à 8h, ils déjeunaient. 8h30, il avait fini, il s'habillait, il allait au café. Un véritable calvaire que j'ai vécu. C'est pour ça... Vous allez peut-être dire que c'est honteux à dire, mais pour moi, ça a été un soulagement quand il est mort. Ça m'a coûté le caveau. Et les machins, les garnitures pour mettre autour. Et puis alors, les taxis pour venir ici. Puis ce qu'on me demande encore pour le descendre. Parce que là au-dessus, je ne saurais jamais y aller. Ces fleurs-là vont devoir rester là comme ça. J'en ai pour 500 000 pesettes.
Le prix des choses, toujours, ou le prix des êtres, les comptes. On s'est permis une censure. On a enlevé, Marco Lamensch, le nom du mort. Tandis que vous, ça ne vous gêne pas de le donner. Mais voyez, nous avons des règles que vous n'avez pas, peut-être.
Son prénom.
Ah, son prénom.
Son prénom. Mais de toute façon, on a toujours été un petit peu énervé par ces paquets de cigarettes rouges qu'on floute.
Oui, mais là, il s'agit de la vie de famille qui sont concernées par le sort du mort. Est-ce que vous avez laissé le droit de regard assez souvent, toujours, aux
très
personnes
rarement.
Avec qui vous avez tourné?
La règle, c'est en principe que les gens n'ont pas le droit de regard. L'idée, c'est que si on donne le droit de regard aux gens, ça veut dire qu'on leur fait faire le film, c'est eux qui montent. Ce qu'on a toujours dit aux réalisateurs, c'est promettez le moins possible, respectez vos promesses, prévenez les gens de la diffusion du film et téléphonez-leur le lendemain pour savoir ce qu'ils en pensent. Et je dois dire que dans la grande majorité des cas, on n'a pas eu de retour négatif.
Oui, mais tout de même, prenons une situation qu'a connue Manu Bonmariage, l'un des pères spirituels de Striptease. Il avait rencontré un couple un peu improbable, formé par un vieux prêtre de 75 ans avec une religieuse d'âge canonique. Et on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Le vieux prêtre n'était pas du tout content des questions que lui posait Manu Bonmariage. Alors comment s'est-il tiré de ce mauvais pas? Parce que le prêtre allait refuser la diffusion.
Mais oui, d'abord, il faut savoir que et le prêtre et Manu Bonmariage sont des Ardennais. C'est un petit peu comme des Bretons. Ils ont la tête près du bonnet et quand ils pensent quelque chose, ils n'en démordent pas facilement. Et effectivement, chaque fois que Manu essayait de lui dire qu'il vivait quasi maritalement avec sa compagne, il se mettait en colère, arrêtait tout. Et un jour, Manu est venu nous trouver, Jean-Limon et moi, en disant « Écoutez, voilà, ça se passe, c'est compliqué, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et puis il a une idée de génie, il a dit « Mais si on prenait une deuxième équipe, qui me filme en train de discuter avec le curé ?» Alors c'était assez surréaliste, parce que le curé interrompait Manu, donc Manu arrêtait de filmer avec sa caméra, puisqu'il tient aussi la caméra, pendant que quand même l'autre équipe filmait. Et à la fin, on a un film assez étonnant, qui une mise en abîme et qui montre un petit peu comment se passe Striptease. Et je me souviens que Manu, à la sortie de la salle de montage, nous dit « On voit quand même bien à quel point ce curé malhonnête essaye de me rouler constamment dans la farine. » Et je me souviens que Jean Libon et moi, on s'est lancé un regard qui voulait dire « Oui, c'est peut-être pas le seul qui veut rouler l'autre dans la farine. »
Dites-moi, les sujets religieux étaient très présents à Striptease à une époque où ils étaient peu à la mode. Ici, nous ne sommes plus dans un cimetière, mais dans une maison de retraite, proche du cimetière, surtout proche du cabaret de Michou. C'est même carrément en face du cabaret de Michou. Sauf que c'est une maison de retraite tenue par l'ordre de Malte.
Maman, j'aime autant les quartiers bien tranquilles.
Pardon ?
J'aime mieux les quartiers bien tranquilles.
Vous n'aimez pas ce quartier ?
Pas follement.
Beaucoup de amis. Oh, moi, je trouve qu'on s'habitue.
Nos amis musclés, elles sont formidables. Dis donc. Les prostituées.
Ah oui, c'est ça.
Il est énorme. Il était toujours décolleté en hiver. Oui. Comme ça, elle n'a rien du tout. Elle n'attrape pas de fonction de poitrine, elle.
Ah ben, il y a un seigneur pour les prostituées, ça c'est sûr. Il y a un seigneur pour les prostituées.
Il faut, il faut. Et puis nous rencontrons Michou de temps en temps.
Ah ben, oui, c'est vrai. Il paraît même dans ce truc-là, très BCBG, comment ça s'appelle, Point de vue, image du monde.
Je ne connais pas.
Mais bien sûr. Une célébrité internationale.
Michou a une assez bonne réputation dans le quartier. On le considère comme quelqu'un de généreux et qui fait du bien, qui invite des personnes âgées de la mairie.
Oui, il y a de la morale, et il y a de la morale qui est bafouée en face.
Oui, mais enfin, il est bien arrivé qu'il y ait des personnes ici qui soient allées chez Michou et que, parce que ça allait leur donner une distraction.
Peut-être que certaines personnes l'ont fait, mais la majorité est opposée à ce mélange.
Moi, je me suis un petit peu engagée vis-à-vis de Colette de l'Étrange. Alors maintenant, d'après
non,
toi.
Non, tu ne peux pas. Je te prie de ne pas accepter cette invitation. Ne revenons plus là-dessus.
Mm-hmm. Bon.
Ça a sonné, non ?
Ça va sonner bientôt.
Ah, le temps se rappelle au vieux père la morale. Camérier du pape, c'est un titre honorifique important. L'horloge qui va sonner, comme dans les vieux de Jacques Brel. Mais ce qui vous intéresse là, c'est la règle, c'est le camérier du pape qui la rappelle, et l'exception. Les oui. femmes, elles vont toutes chez Michou, sauf l'épouse soumise du camérier.
Ce qui est intéressant, ce sont les limites, ce sont les endroits où les plaques tectoniques se frottent et où on comprend parce qu'il y a un volcan, de ce qu'il y a en dessous du manteau terrestre.
On entendait des retraités dans une maison de l'ordre de Malte. Vous vous intéressez d'ailleurs au milieu de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie au motif que les pauvres n'imaginent pas ce que sont les riches, de même que les riches n'imaginent pas ce que sont les pauvres.
Je crois que c'est ce qui a fait le succès de Striptease, en fait. Les gens ne se connaissent pas d'une région à l'autre, d'une classe à l'autre, d'un âge à l'autre. Et je crois que les jeunes étaient contents de voir comment vivent les vieux. Et c'est pour ça que ça a marché, je crois.
Et comment vit un membre du cercle de la noblesse de Bruxelles, le baron Duhard, très vieille famille de votre pays?
Je me demande qui ça peut être. Voilà. Allô? Alors que je te dise, tu as le choix. C'est un dîner que je donne sur le thème du carnaval. Et alors, ou bien tu viens en smoking, ou bien tu viens en quelque chose de bien extravagant. Oui, et c'est pour ça que je me suis dit que si mon Dieu s'était plus ou moins costumé, nous aurions peut-être l'air moins ridicule tant qu'à faire. Alors, comment avez-vous trouvé cette soirée?
Mais, et vous?
Ah, eh bien, ce sont des gens que j'aime beaucoup, en fait. À force de les voir longtemps, on finit par connaître leur réelle qualité et on parvient à reconstituer tout ce qui se cache derrière, souvent cette frime et ces masques et ces façons d'être quelquefois artificielles. Et on découvre que ce sont des gens qui ont souvent une sensibilité quelquefois d'écorché vif. Et à leur façon, ce sont aussi des artistes,
mais
je crois.
Mais ce malaise qui est derrière cette frime, peut-être.
C'est parce qu'ils sentent qu'ils ne servent plus à rien maintenant, me semble-t-il. Je crois.
Et vous-même, vous avez cette sensation?
Personne ne me demande, en tout cas, de servir à quelque chose.
Vous aimeriez?
Ah, c'est ça qui donne la justification d'une existence. Par exemple, un médecin, c'est le fait de sauver des vies qui peut justifier sa propre vie. Mais nous, c'est une question qu'on évite de se poser parce qu'on n'en connaît vraiment pas la réponse. À quoi servons-nous?
Quelque part, vous cherchez à faire illusion.
Bon, je crois que ce dîner vous a donné la réponse.
Là, il y a des questions et des réponses.
Oui, oui, mais c'est un des films du début. Il y avait un peu plus d'interviews.
Et vous, quelqu'un à la télé, vous a demandé à servir à quelque chose?
Non, je crois que les gens qui étaient dans l'émission Striptease, c'était quand même un peu tous des repris de justice. Tous les gens qui ont travaillé à Striptease avaient eu des soucis avec la hiérarchie. Et...
Donc vous n'aviez pas de mission, de vous dire, les gens.
Mais... Oui, je crois d'essayer de faire le mieux possible, mais on nous affiche une paix royale parce que ben, quand vous avez de l'audience, on vous fiche la paix.
Mais dites-moi, Marco Lamensch, aujourd'hui, est-ce qu'on ne dirait pas, en voyant les émissions de Striptease, si d'aventure elles continuaient, qu'elles sont voyeuristes, qu'elles font observer les gens par le petit trou de la serrure? On a produit récemment, dans votre esprit, Recherche bergère désespérément. Une famille du Pas-de-Calais veut marier le petit-fils, qui n'est pas doré sur tranche, à une Roumaine qu'on fait venir. Bruno Roger Petit, éditorialiste passé depuis à l'Élysée, a parlé de voyeurisme pour CSP+, de trash TV pour bourgeoisie en mal de domination sociale.
Oui. Il a très bien terminé à l'Élysée, mais il s'est fait répondre par un de ses collègues qui était effroyablement hypocrite et que il n'avait jamais vu grand-chose. Alors je crois que ça n'avait pas eu les réseaux sociaux, c'est vraiment le début du poids des réseaux sociaux. Les choses seraient passées totalement inaperçues. Peut-être que la caméra aurait dû être à un moment un petit peu plus distante et un petit peu plus discrète. Mais enfin, il n'y avait pas de quoi vraiment fouetter un chat. Et...
Mais il y avait plus de tendresse à votre époque?
Je crois qu'il y a toujours eu de la tendresse, et j'ai l'impression que dans ce film-là aussi, moi je me souviens d'avoir vu le jeune homme, le jeune agriculteur, sans avoir la moindre envie de m'en moquer. Je crois qu'il y a toujours eu cette espèce de mélange de tendresse, mais aussi de distance et d'ironie. Mais ceci dit, comme chaque film de Striptease, c'était pas formaté par Libon et Lamensch, c'était signé et fait par un réalisateur. Et il y a des réalisateurs qui sont plus tendres que d'autres.
Puissance des réseaux sociaux aujourd'hui, puissance du sentiment de défiance.
Absolument, mais la télé-réalité est passée par là. C'est-à-dire ce que nous faisions il y a 30 ans, un peu plus, en allant, je sais pas, une famille de paysans ou d'hommes d'affaires, et en leur expliquant pourquoi leur manière de vivre ou ce qu'ils faisaient nous intéressait, de les convaincre que ça nous intéressait, que si ça nous intéressait, ça pouvait intéresser le public. En fait, on se tapait dans la main, on faisait comme des paysans, on ne faisait jamais rien signer, jusqu'à peu près à l'an 2000. Et il n'y a jamais eu, on a fait 850 films, c'est eu 5 procès, c'est un grand maximum.
Alors, vous descendez des comédies sociales à sketch italiennes, du cinéma vérité québécois, et puis peut-être sans le savoir, du grand journaliste viennois, Karl Kraus, qui n'aurait pas aimé être traité au début du siècle précédent de journaliste, il disait « On fait des textes de la longueur qui est nécessaire quand c'est nécessaire ». Il n'y avait pas de format à Striptease.
C'est exactement
imposé.
Ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'au départ, on a proposé un quart d'heure parce qu'on trouvait que de manière générale, tous les documentaires tirés à la ligne étaient beaucoup trop longs. Mais après, quand on s'est trouvé avec une matière suffisamment bonne, on a fait des films aussi d'une demi-heure, voire d'une heure.
Vous me permettrez quand même de couper court, parce qu'ici, à France Inter, nous avons des exigences imparables.
Il faut couper court.
Et il faut aussi citer, aux éditions Chroniques, votre livre sur Striptease. L'émission a été préparée par Éline Canegulesco, Franck Olivard, à la réalisation Audrey Ripouille, à la technique Rémi Sistiaga.